Nous suivrons le découpage en deux parties de ce verset 20, le deuxième verset, pour structurer notre réflexion. Commençons donc par la première partie du verset 20, « De quelque manière que notre cœur nous condamne ». Ces mots, employés par Jean, entrent fortement en résonance avec l'image que nous avons évoquée, celle de la personne accablée par son ombre. Mais ici, Jean va encore plus loin. Il ne parle pas d'une ombre, quelque chose qui, bien que généré par notre présence, reste à l'extérieur de nous, quelque chose qui n'est pas vraiment nous. Jean évoque quelque chose de beaucoup plus intime, enfoui au fond de nous, quelque chose que personne, à part nous, ne peut voir. Il s'agit ici de notre cœur. C'est notre propre cœur qui nous condamne. Cette idée du cœur qui condamne induit toute une série de questions. Nous y viendrons les unes après les autres. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle du cœur ? On en a parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, à travers les chants notamment. De quoi parle-t-on quand on parle du cœur ? Dans le langage usuel, le cœur renvoie à l'expression de nos émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, les quatre émotions de base. Dans cette idée, le cœur est quelque chose d'un peu simple, voire simpliste. On l'imagine tout rose, avec cette forme-là. Dans la Bible, le cœur, c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois le siège de nos émotions, comme nous l'entendons aujourd'hui, mais c'est également le siège de notre intelligence, de notre pensée, de notre volonté. Le cœur dans la Bible, c'est également le cerveau. C'est le centre de contrôle de tout notre être. C'est notre conscience également. D'ailleurs, certaines traductions de la Bible utilisent ce mot de « conscience » à la place du mot « cœur » dans le passage de l'Épître de Jean. Le cœur dans la Bible, c'est en fait tout notre être intérieur. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Quand notre cœur nous condamne, c'est tout notre être intérieur qui nous condamne. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Ce n'est pas le fruit d'une émotion passagèrement mal maîtrisée. C'est potentiellement beaucoup plus grave que ça. Et nous en arrivons à une deuxième question. De quoi notre cœur nous accuse-t-il au juste? Pourquoi est-ce qu'il nous condamne? Là-dessus, le texte n'apporte pas beaucoup de détails. Il précise simplement, au début du verset 20, « de quelque manière que ce soit ». Il y a donc plusieurs manières pour notre cœur de nous condamner, plusieurs motifs, plusieurs procédés. Ce peut être suite à un événement précis, un événement au cours duquel nous considérons avoir mal agi, ne pas avoir été à la hauteur, ne pas avoir pris la bonne décision. Nous ruminons cet événement dans notre tête, dans notre cœur. Et nous nous disons que nous avons fauté en ayant fait ceci, ou au contraire en n'ayant pas fait cela. Ce peut être également un sentiment plus diffus, plus continu, plus pernicieux aussi. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment le matin au réveil? Vous avez dormi, le réveil sonne. Vous l'éteignez. Et dès les premières secondes au cours desquelles vous passez de l'état de sommeil à l'état d'éveil, un puissant sentiment de condamnation emplit votre cage thoracique. Vous ne savez pas d'où il vient, vous n'avez pas en tête un événement précis qui se serait déroulé la veille, qui justifierait ce sentiment de condamnation. En vous appuyant sur le peu que vous connaissez de la psychanalyse, vous vous direz peut-être que c'est une part de votre inconscient, votre « ça », qui n'a pas été correctement bloqué par votre « surmoi » au réveil et qui a atteint votre « moi conscient ». Je vous renvoie aux travaux de Freud. Pourquoi pas ? Toujours est-il que ce sentiment est bien là et qu'il habite à l'intérieur de vous. Il se présente presque sous les traits d'une personne avec laquelle vous pouvez dialoguer. Enfin, dialoguer. Vous n'avez pas trop la parole. C'est plutôt elle qui parle et qui condamne, sans appel. Souvent, ces phrases commencent par « tu n'es pas capable de… » « tu n'es pas capable d'être à la hauteur de toute cette journée qui s'annonce, toutes ces rencontres, tous ces moments où il faudra exister, se positionner, tous ces enjeux qu'il faudra assumer. Tu n'es pas capable. » Il y a aussi les phrases qui commencent par « tu n'as pas le droit. » « Tu n'as pas le droit de te reposer. » Il y a tellement de gens qui travaillent. « Tu n'as pas le droit d'être heureux. » Il y a tellement de personnes qui souffrent. « Tu n'as pas le droit de prendre telle ou telle liberté. » Tu n'as pas le droit. La journée n'a même pas commencé, que vous êtes déjà condamné, vous avez déjà échoué. La tentation est forte de rester au fond de son lit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce que je décris ici. Peut-être ne s'agit-il que de mes propres névroses, après tout. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous ne soupçonnons pas les combats intérieurs que se livrent quotidiennement certaines personnes au sein de leur propre cœur, des personnes qui nous entourent. Si nous avions davantage conscience des condamnations que certaines personnes peuvent s'infliger à elles-mêmes, alors, peut-être, serions-nous moins prompts à nous condamner les uns les autres. Jean nous dit dans ce texte que notre cœur peut nous condamner de bien des manières. Ces manières sont sûrement différentes d'une personne à l'autre. Nous en arrivons à une autre question. Est-ce si grave, après tout ? Est-ce si grave de se laisser condamner par notre cœur ? Heureusement que nous avons une conscience morale qui nous cadre, qui nous empêche d'être mégalomanes. Tu n'es pas capable, qui nous rappelle que nos actions doivent être guidées par la recherche du bien plutôt que par la recherche du mal, ou en tout cas la recherche de notre unique intérêt. Tu n'as pas le droit. Certes, nous sommes munis d'une conscience morale et c'est une bonne chose. Mais quand cette conscience morale, ce garde-fou, se transforme en condamnation, ça crée forcément des dégâts. Beaucoup de dégâts. Premier dégât, la personne qui se sent en permanence condamnée ne peut pas être heureuse. Elle ne peut pas exprimer ce sentiment de paix, de joie auquel nous sommes appelés lorsque nous avons placé notre espérance en Jésus. Comment témoigner avec authenticité de cette espérance quand nous renvoyons nous-mêmes l'image d'un condamné ? C'est pas possible. Autre dégât. La personne condamnée, qui se dit en permanence « tu n'as pas le droit, tu n'es pas capable », cette personne ne peut pas avancer dans la vie. Chaque situation est une occasion de doute, de remise en question. Chaque situation est une nouvelle occasion d'être condamné. C'est une entrave à l'action à laquelle nous sommes tous appelés, en qualité de témoin du Christ. Enfin, et c'est peut-être là que le sentiment de condamnation est le plus pervers, que se passe-t-il lorsqu'on se sent mis sur le banc des accusés, condamnés d'avance ? Eh bien, on ne pense plus qu'à ça. On ne pense plus qu'à soi. L'égocentrisme n'est pas l'apanage des puissants, des gens sûrs d'eux. il est aussi celui de toute personne qui, tellement préoccupée par sa propre situation, en oublie de penser aux autres. Et c'est typiquement le cas des personnes qui se condamnent elles-mêmes. Elles ne pensent plus qu'à elles. Oui, c'est grave d'accepter sans résistance de laisser notre cœur nous condamner. Venons-en à une question délicate, et à laquelle, je vous le dis d'emblée, nous n'apporterons pas de réponse facile. Nous avons dit jusque-là que c'est notre cœur, notre conscience qui nous condamne. Autrement dit, c'est nous seuls qui nous condamnons. Mais est-ce si clair que ça ? Est-ce aussi tranché que ça ? À travers ce qui se trouve dans notre cœur, n'est-ce pas notre société, notre culture, notre éducation, tout ce que nous avons intégré depuis notre tendre enfance qui nous condamne en définitive ? Quelle part nous revient vraiment à nous ? Je vais encore un peu plus loin. Qui, dans la Bible, est l'accusateur par excellence ? Qui, en partant de la Genèse, en passant par Job et les prophètes, les évangiles, jusqu'à l'Apocalypse, se donne pour mission constante d'accuser ? Au point que le nom que nous lui avons attribué signifie littéralement, en hébreu, l'accusateur. C'est Satan, le diable. Le diable, manipulateur par essence, ne jouerait-il pas un rôle dans notre affaire ? Cela nous aiderait à déculpabiliser de nous dire que finalement ce sont les autres, voire même le diable, qui nous condamnent en réalité, et non pas nous-mêmes. Mais le texte que nous avons lu ne nous dit pas ça. Il nous dit bien que c'est notre cœur qui nous condamne. D'une manière ou d'une autre, nous avons notre part là-dedans. C'est notre combat à nous, un combat intérieur, un combat entre cette part de nous qui reste influencée, comme déréglée, par notre nature pécheresse, et cette autre part qui souhaite se libérer, s'extraire de cette nature qui emporte avec elle la condamnation. L'être humain est complexe et nous aurons du mal à aller beaucoup plus loin ce matin pour préciser le rôle que le diable peut jouer dans cette dualité qui parfois nous habite. Le passage que nous avons lu ne le mentionne pas en tout cas. En revanche, là où le texte est bien plus précis, c'est sur le rôle que Dieu souhaite jouer pour nous sortir de notre impasse. Nous lisons à présent la deuxième partie du verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Dieu est plus grand que notre cœur. Notez bien ceci. Jean ne dit pas « Dieu connaît notre cœur ». Il ne dit pas non plus « Dieu peut influencer notre cœur ». Il met carrément Dieu en comparaison avec notre cœur. Pas forcément en opposition, mais en comparaison. Il dit « Dieu sait mieux ce qui est vrai que notre propre cœur ». Pour savoir ce qui est vrai, tu peux écouter ton cœur, mais tu dois surtout écouter Dieu. Pourquoi ? Parce que ton cœur peut se tromper. Et oui, notre cœur peut se tromper. Il s'agit d'une question que nous n'avons pas abordée jusque-là, mais nous y venons. Lorsque notre cœur nous condamne, est-ce qu'il a raison ? Ou est-ce qu'il a tort ? Après tout, il pourrait avoir raison de nous condamner lorsque nous faisons le mal, lorsque nous manquons de courage ou de foi. C'est vrai, nous aurions raison d'écouter notre cœur. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que notre cœur peut aussi nous condamner à tort. Même le cœur du chrétien. Peut-être, devrais-je dire, surtout le cœur du chrétien qui a pris conscience de son péché et qui désespère de ne pas être plus fort, de ne pas arriver à mieux lui résister. Notre cœur peut nous maintenir dans un sentiment de culpabilité, alors même que Dieu, lui, nous a déjà pardonné. Oui, la nature humaine est complexe. Sentiment de culpabilité ne vaut pas forcément culpabilité. Et à l'inverse, absence de sentiment de culpabilité ne vaut pas non plus innocence. Notre cœur peut se tromper. Notre cœur ne sait pas tout. Il ne comprend pas tout. Dieu sait tout. Il est plus grand que notre cœur. Il est juste. Et quand notre cœur se dérègle, quand notre cœur nous condamne outrageusement, Dieu est celui vers qui nous pouvons nous tourner pour qu'il nous défende. C'est ça que nous dit Jean ici. Bon, nous avons avancé un peu. Intellectuellement, nous pouvons comprendre cela. Lorsque notre cœur nous condamne, nous pouvons nous tourner vers Dieu, qui est plus grand que notre cœur, pour qu'il nous défende. Compris. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il ? Concrètement, comment faire pour que Dieu soulage notre cœur ? C'est ça que nous voudrions savoir. Pour arrêter de ne penser qu'à ça, pour arrêter d'être tourmenté, pour pouvoir aller de l'avant. Comment fait-on concrètement ? Nous aimerions obtenir une réponse facile à cette question. Nous aimerions repartir d'ici avec la solution pour que notre cœur ne nous condamne plus jamais à tort. Je suis navré de vous décevoir. Le combat que vous livre votre propre cœur depuis si longtemps, je crains qu'il ne faille continuer à le mener. Lire la Bible, croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, prier n'est pas le moyen d'éviter le combat de la foi. Combat il y a eu, combat il y aura. C'est au contraire le moyen de livrer ce combat et de l'emporter. Car nous avons les armes pour cela. Je relis le passage de l'épître de Jean qui nous accompagne depuis le début de cette prédication, mais cette fois-ci j'ajoute à la lecture le verset qui précède, que nous n'avons pas lu, le verset 18. Nous lisons. Du verset 18 au verset 20. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Le moyen de soulager notre cœur, le moyen de rétablir la vérité face aux condamnations abusives de notre cœur, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. Non pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il n'y a rien d'autre au programme. Notre cœur voudrait nous faire croire qu'il y a autre chose à faire, mais non, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun commandement à observer. Il n'y a aucune bonne morale évangélique à suivre. Il s'agit simplement de vivre dans l'amour que Dieu donne sans mesure. C'est tout. Donner de l'amour, mais également accepter qu'on nous en donne. Car il est là aussi notre problème. Acceptons-nous que Dieu nous aime ? Acceptons-nous que les autres nous aiment ? Laissons Dieu nous aimer. Laissons les autres nous aimer. Notre cœur ne cesse de nous condamner, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne nous condamne pas, il nous gracie. Laissons-le s'approcher de nous. Ce peut être un combat de tous les jours que d'accepter cet amour, c'est vrai. Tous les matins, au réveil ou à un autre moment, notre cœur peut nous condamner. Mais tous les matins, nous pouvons refuser cette condamnation. Nous devons refuser cette condamnation. Comment notre cœur pourrait-il nous condamner alors que Dieu nous a graciés? N'en doutons pas, il nous a graciés. La partie est terminée. Tous les matins, nous pouvons nous tourner vers Dieu et trouver auprès de lui tout ce qu'il se propose d'être pour nous. Un Dieu puissant qui guérit les blessures. Un Père qui nous pardonne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un ami qui souhaite nous accompagner sur le chemin de l'espérance. Oui, refusons la condamnation de notre propre cœur. C'est absolument nécessaire pour que nous puissions à notre tour aimer Dieu de tout notre cœur, pour que nous puissions à notre tour aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, tu nous dis que de quelque manière que notre cœur nous condamne, tu es plus grand que notre cœur et tu connais tout. Puisse cette parole se réaliser dans nos vies. C'est notre prière. Amen.